ce qui a été dit là, par rapport à la fois à la réflexion au niveau national sur le thème de psychospirituel, on va dire, et puis sur la multiplicité de ce qui est proposé comme retraite, etc., qui vont dans ce sens-là, sans parler des dimensions. Quels sont les points de discernement pour justement y voir un peu plus clair, puisque ça a l'air quand même assez confus.
Alors, oui. Alors, il se trouve que je ne fais pas de promotion pour cela, mais c'est paru dans la presse, et je dois vous dire tout de suite que je ne suis pas forcément dans cette théologie ou dans cette ecclésiologie-là, mais Goliath a fait paraître ce qui, normalement, devait être extrêmement réservé aux évêques, et c'était un document. Maintenant, voilà. Donc là, il y a quelques points de repère qui sont donnés par rapport aux questions que vous vous posez. Je voudrais simplement peut-être donner quelques points d'attention. Encore une fois, je pense qu'il est absolument déraisonnable, en une semaine ou en un week-end, de vouloir revisiter l'histoire d'une personne et le mystère de l'histoire d'une personne. Et si vous voulez, cette focalisation immédiate sur telle ou telle blessure permet un soulagement, enfin on a découvert, vous voyez. Mais cette immédiateté de l'histoire, de ce qui pourrait avoir entaché l'histoire d'une personne et être l'objet même de toutes ces tensions, est absolument déraisonnable sur le plan psychiatrique, sur le plan psychologique. Il y a une lente élaboration maïotique qui se fait quand la personne se dit, par exemple en psychanalyse, et le risque toujours d'un psychanalyste ou d'un psychothérapeute est d'être dans l'interprétation. Si, de manière trop immédiate, on va dire c'est ça, le Seigneur veut te guérir à cet endroit-là, la personne risque de s'enquister et de focaliser toute son histoire à partir d'une immédiateté trop rapide qui a été confirmée par un accompagnateur. Et là, il y a un mieux-être. La personne se sent, dans un premier temps, effectivement soulagée, mais elle n'a pas permis, cette chose-là n'a pas permis toute une élaboration qui demande une vie. On ne peut pas, vous voyez, c'est ça. Ou alors, s'il y a véritablement blessure, ça demande un travail, éventuellement avec des professionnels, qui demande du temps, qui demande du temps. Donc, c'est quasi miracle d'aller chercher la blessure trop rapidement, me paraissent être véritablement des contrefaçons, de la fausse monnaie, comme dirait Jacques Maritain, qui a beaucoup travaillé aussi en philosophie sur ces questions du « connais-toi toi-même ». Il parlait de fausse monnaie. Il y a une illusion à la guérison immédiate de tout. Et les fruits, si on les mesure, ben quand on voit effectivement les ruptures que ça peut provoquer, on peut se poser des questions sur effectivement les fruits. Alors, encore une fois, pas les fruits émotionnels. Les fruits émotionnels, les personnes ressentent ça comme effectivement un soulagement ou une guérison. Mais wait and see.
Atténue votre propos. Enfin, interprétation un petit peu.
Ça atténue sans doute mon propos. Cette commission a été mise au point en lien avec la conférence des évêques de France, parce que précisément il y avait un certain nombre de difficultés. Si vous voulez. Les experts qui ont pris position dans cette commission ont analysé selon leurs compétences ces points qui étaient proposés et précisément ont tous montré les difficultés qu'il pouvait y avoir, et je vous en ai déjà dit une tout à l'heure, en ce qui concerne de revisiter toute l'histoire d'une personne en une semaine, etc. Vous voyez, et puis d'autres points. Sur le plan simplement, si vous voulez, de l'accompagnement spirituel, si on a un peu l'expérience de l'accompagnement de type ignatien, vous savez, l'accompagnateur est très très en distance, il laisse la personne avec la parole de Dieu, et il ne va pas confirmer trop immédiatement ce qui s'est produit. Il laisse au contraire la personne parfois dans une grande aridité par rapport à la parole de Dieu. Mais d'une certaine manière, il n'y a pas une interprétation immédiate. Donc, tant sur le plan psychiatrique que sur le plan d'accompagnement spirituel, il y a véritablement des choses très importantes qui ne sont pas ajustées. D'autre part, Mgr Brincard... ça se passe sur son diocèse et les commissions dont il a parlé dans la Croix, enfin l'élaboration de, ce sont des personnes qu'il a cherchées lui-même. Il faudrait pour quelque chose qui touche maintenant une partie de notre vie spirituelle en France qu'il n'y ait pas que des personnes auto-trouvées, enfin qui font partie de l'entourage de voilà. Donc vous voyez, je crois que c'est suffisamment grave pour que cette question qui touche, on a parlé de ce diocèse, mais ça touche aussi l'ensemble des diocèses. Et par conséquent, il y a une élaboration qui ne doit pas être uniquement le discernement d'un seul évêque, mais de tout un ensemble par rapport à l'Église que nous formons.
Je peux vous dire que quand j'ai suivi une retraite à Calvi, au Puy-en-Velay, je ne me retrouve pas dans les propos que vous dites.
Vous avez mal livré ?
Oui.
Et vous n'avez pas trouvé ça ?
Et ce livret a été modifié depuis que ce rapport a été écrit.
Ah, ça veut dire que s'il a été modifié depuis qu'il a écrit, c'est qu'il y avait quelques questions que l'on devait se poser. Oui. Alors, je ne veux pas rentrer dans une polémique, mais vous voyez, là, nous sommes sur des questions extrêmement graves et qui font l'objet de toute une réflexion ecclésiale en ce moment. On a nommé cette... j'ai quand même quelques points d'interrogation qui sont partagés par des...
C'est peut-être une minorité.
Comment ?
Moi, je suis quand même un peu circonspect d'entendre ce que je viens d'entendre, parce qu'il y a une globalisation globale, un flou sur tout type de session, et on ne fait pas de distinction entre les sessions qui sont cadrées, qui sont vraiment faites par des gens qui sont, je peux prendre M. Berlin, Robert Berlin, qui fait des sessions pendant 3-4 jours, une semaine, je l'ai vécu moi-même à l'automne, je ne me retrouve pas du tout dans mon propos. Ça veut dire qu'il y a peut-être des endroits où c'est mal fait, où il y a des endroits où on n'a pas respecté un cheminement lent de pardon, de discernement, d'accompagnement, mais il y a des endroits où on fait du travail, du très bon travail. Et ce qui me gêne dans vos propos, c'est la globalisation de l'ensemble de ces sessions. Il y a des sessions, on peut évoquer aussi la maison d'abat, à Sablé-sur-Sarthe. Donc il y a des bonnes choses de fait. La foi permet la guérison. Il y a des familles qui sont revenues à l'Église, dans des sessions, mais dans des sessions encadrées avec des gens qui sont formé, instruit pour pouvoir faire ce travail et qui progresse, parce que on est tous des pêcheurs. Et vous savez, aujourd'hui, j'avais ma sœur au téléphone, hein, c'est un petit détail de rien du tout. Elle est élevée par des sœurs à une époque. Elle a quitté la foi par la blessure qu'elle avait reçue dans son passé d'enfant vis-à-vis l'éducation religieuse qui avait été un peu dure. Donc, ce que je veux dire, moi, je ne critique pas du tout au propos, parce que ce que j'ai trouvé de l'enseignement à l'époque, qui était vraiment très bon, mais je veux dire, mesurer un petit peu, et ce du plus explicite, parce qu'il y a des sessions qui font du très bon travail, il y a des conventions qui sont excellentes, qui sont bien encadrées. Donc, il faut faire part des choses.
Je vous remercie de votre intervention parce que je crois que c'est effectivement, il faut repréciser. Cependant, si vous voulez, il n'est pas raisonnable de penser qu'en une semaine, en un week-end, on puisse toucher des lieux aussi sensibles avec des accompagnateurs et à leur attention. Parce que, si vous voulez, il faut préciser les choses. Vous voulez la précision ? Où se situe-t-on quand on touche à la mémoire de la personne? Est-ce que nous sommes dans un accompagnement spirituel? La tradition ignatienne ne va jamais chercher... vous voyez, des choses de la mémoire peuvent émerger, mais c'est surtout cette actualité de la relation avec la parole qui importe. Vous voyez? Donc, quand un accompagnateur spirituel voit qu'il y a telle ou telle difficulté sur tel ou tel point, il peut renvoyer à quelqu'un qui soit compétent réellement par rapport à une difficulté d'ordre réellement psychologique, si vous voulez, de blocage ou autre. Mais si vous voulez, de mélanger le plan de la mémoire avec le plan de la vie spirituelle me semble être quelque chose qui est hasardeux. Alors ça ne veut pas dire pour autant que dans certains cas, des personnes peuvent se trouver libérées. Moi je crois aussi que bon, le charisme peut bon. Mais attention encore une fois, à savoir, un certain nombre de personnes aujourd'hui, dans les grands leaders, on ne sait plus à quel niveau ils se situent. Je le disais tout à l'heure, est-ce qu'il y a une psychothérapie, est-ce que c'est un accompagnateur spirituel ou est-ce qu'ils sont garants de l'autorité de l'Église? Et ce mélange de plans est véritablement très ennuyeux. Il y a une distinction qui doit être faite dans l'Église et qui a été faite justement suite à des difficultés. C'est de ne pas mélanger le fort interne du fort externe. De ne pas mélanger le fort interne du fort externe. Donc il y a des choses qui doivent appartenir à l'accompagnateur ou au directeur spirituel qui sont de l'ordre de la vie spirituelle, qui ne sont, à mon avis, et de l'avis d'un certain nombre de spécialistes, qui ne sont pas à mélanger avec quelque chose qui soit des difficultés relationnelles liées à notre histoire. Même si, effectivement, il peut y avoir des interactions, encore une fois, on est un, mais attention à la distinction des plans.
On peut dire aussi que, traditionnellement, si l'accompagnateur spirituel trouve avec la personne qui a une blessure au niveau psychologique, il doit la renvoyer à une autre personne compétente dans ce domaine-là. Il n'est pas fonctionnaire, c'est lui faire. C'est ça aussi le problème. C'est qu'on ne respecte pas cette altérité et cette distinction de compétences. On mélange tout.
Oui.
Moi, j'appuierais un petit peu ce qui vient d'être dit. Hein. Dans toutes les parties de l'Église, dans tout ce qui est exercé, y compris que ce soit dans vos paroisses ou partout, il y a le bon grain et l'ivraie.
Il y a
le bon grain,
oui, oui,
et l'ivraie. Alors, est-ce qu'il faut tout jeter et ne plus pratiquer, ne plus faire de prière, ne plus donner l'enseignement, ne plus exercer les caresses? Et alors, la parole de Dieu, c'est quoi? Il y a la liste des caresses. Le Seigneur a guéri immédiatement, quelquefois, mais toujours dans une conversion, dans une annonce de la parole de Dieu. Parce que je crois qu'il y a cela aussi qu'il faut revenir, c'est à l'annonce du Kérim. On manque de personnes qui annoncent la bonne nouvelle. La bonne nouvelle. À partir de ce moment-là, après, le Seigneur a dit, voilà les signes qui accompagneront
ceux qui auront foi.
Donc elle est à exercer. À partir de ce moment-là, c'est vrai que de temps en temps, se glissera des choses. Je me souviens au début du renouveau charismatique, quand on rencontrait nos frères prêtres, et quand on rencontrait qu'on avait des rencontres nationales, c'est toujours les mêmes exemples négatifs qui nous étaient amenés. On avait l'impression qu'il y avait un circuit qui passait de paroisse en paroisse et qui nous disait, voilà, ah oui, il y a eu ça, il y a eu ça. Bah, j'attendais aussi les bonnes choses qu'il y avait eu. Mais ça, ça ne me venait pas. Je dis que c'est pour ça, c'est important quand on fait. Enfin, moi, je pense qu'il y aura toujours du bon grain qui va, le Seigneur il dit, on verra. À la fin, les apôtres lui-même demandent, est-ce qu'ils vont couper? Non, surtout pas. Donc, pour quand même revenir, nous aussi, à la parole, et c'est vrai que la question que vous est posée à l'Église à l'heure actuelle, est-ce que le merveilleux est interdit? Alors, si le merveilleux est interdit dans l'Église, qu'est-ce que font les gens? Ils vont chercher ailleurs.
Mais le merveilleux n'est pas interdit, je crois profondément aussi au miracle à Lourdes. Quand le merveilleux est organisé, vous voyez, et qu'il est systématisé, je crains que ce merveilleux soit provoqué. Et c'est ça la difficulté, vous voyez, du discernement. Attention à la systématisation, vous voyez, du processus de guérison. Et puis il y a une autre question qui se pose, c'est la question de la blessure. Doit-on irrémédiablement guérir toutes nos blessures? Et quand on connaît la difficulté du quotidien, quand tel enfant présente telle difficulté, symptôme, et on peut mettre tout son cœur à vouloir qu'il soit guéri, et puis le plus rapidement possible. Mais si vous voulez, après, parfois, hein, cette effervescence, l'humble quotidien revient bien souvent. Et peut-être je suis plus témoin de l'humble quotidien que de l'émergence de guérisons qui peuvent effectivement arriver, mais jamais sur commande. On n'a pas la main sur l'Esprit Saint. L'Esprit Saint vient dans nos vies de manière gratuite, étonnante, et précisément nous permet la conversion. Une conversion profonde de nos vies et une conversion où nous avons à être acteurs et ne pas attendre tout du merveilleux. Nous avons librement à être acteurs de cette parole qui vient habiter notre cœur.
Est-ce que vous tendez à dire que dans les grands rassemblements, par exemple, il y aurait une manipulation de personnes?
Je ne peux pas le dire de manière systématique. Bien entendu, il faut beaucoup nuancer. Mais si vous voulez, je crois qu'un certain climat, une redondance de chants, peut nous entraîner dans un climat quelque peu hypnoïde. Vous voyez ? Et je peux être un peu mal à l'aise quand il y a provocation d'un climat.
Même pas une parole de guérison. Non. Il faut être
n'est pas tout à fait, on n'est pas tout à fait
au même niveau.
On est en train d'analyser un tout petit peu un certain nombre de déviations qui se produisent actuellement, depuis déjà maintenant des années, dans ce qui est proposé. Mais on ne doute pas de la nécessité de la prière de guérison, de la nécessité de proposer des choses que l'Église paroissiale, diocésaine ne le propose pas. Mais il faudrait quand même aussi le courage de se remettre en question sur un certain nombre de déviations. J'ai participé le mois de juillet à la convention de Saint-Laurent-sur-Sèvre. J'ai été quand même très frappé par ce que Bertrand vient de dire, à travers certaines musiques, certains chants, où on faisait répéter en boucle pendant 10 minutes à une assemblée de 1000 personnes, une phrase, et en la baignant ainsi dans un si petit mantra. Et ça, c'est quand même problématique, c'est nouveau, ça n'existe pas du tout nouveau, et puis c'est problématique, je trouve.
Et donc, tout rassemblement,
oui,
tout rassemblement, je suis d'accord avec vous, tout rassemblement, oui, il y a un premier rassemblement, les conventions que je fais, il y a des choses qui ne me plaisent pas. Bon, ben d'accord.
Je non, dis, c'est pas ça, c'est pas seulement pas
je dis, allez, je dis, c'est bien ça, on ne fait pas ça. Alors, merci, si tu veux, hein, si tu peux faire quelque chose pour éviter que ça blesse quelqu'un, ça passe, tu es bien d'accord. Mais alors, déjà, il y a des choses avec nous. Il y a des choses extraordinaires. Pourquoi, à partir de ce moment-là, il faut dire, bah, c'est fini, on ne fait plus. Il faut interdire. On sent bien le gouvernement qui dit ça. On sent bien.
Non.
Ça vient.
Non, il ne s'agit pas d'interdire, il s'agit de discerner. Et il s'agit aussi de voir qu'une foule peut être aussi entraînée comme les jeunes. Hein. Les jeunes en techno, ils sont, je peux vous dire, dans un certain climat aussi. Hein. Non, mais c'est autre chose, mais attention, précisément quand il y a répétition sans cesse du même, la même chose, nous créons artificiellement et mécaniquement un certain climat. Et ça, attendez.
Oui, mais c'est
je
vous
aime.
Je vous aime.
C'est
un avocat. Je voudrais poser une question.
Oui. Voilà. Oui.
En fait, moi, je voudrais poser la question et ce que vous venez de dire un petit peu. En fait, j'ai vraiment l'impression que c'est adapté aux personnes fragiles. C'est-à-dire que là, vous me parlez de la souffrance des personnes fragiles, très fragiles. Heureusement, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont fragiles psychologiquement. Il y en a.
Oui.
Justement,
c'est ce message
s'adresse à ces personnes-là.
Mais c'est-à-dire
qu'il y a. Il y a danger. Moi, j'ai vraiment. Je suis d'accord avec vous. C'est pour ça que j'ai pas envie de poser une question. Mais là, quand j'entends ces deux personnes qui disent non, je ne suis pas d'accord avec vous. Moi, je trouve que c'est très, très important ce message-là. C'est très, très important. Moi, je connais des personnes fragiles, très fragiles psychologiquement, suivies en psychiatrie. Et ces personnes sont en danger. Si elles vont dans des séances, je ne vais pas citer de nom, mais après une semaine, c'est dangereux pour ces personnes-là, c'est très dangereux. Quelqu'un qui n'a pas une foi solide, quelqu'un qui n'a pas une religion ancrée vraiment dans sa vie, c'est dangereux. La personne peut facilement partir et.
On peut rentrer dans une illusion.
Voilà, oui. Voilà, dans une illusion. On peut parler même de délire à ce moment-là. Pour les personnes
fragiles, c'est dangereux. Alors,
il y a les
soeurs,
c'est mieux.
Non, mais attendez, si, moi je crois, vraiment, attendez, je ne veux pas rentrer dans une polémique, mais je crois quand même, si vous voulez, que si on va chercher systématiquement une guérison, je crois qu'il y a quelque chose qui n'est pas juste. Il n'est pas juste. Vous savez, le Seigneur ne nous demande pas, paradoxalement, il ne nous demande pas de nous guérir, hein, il nous demande de nous convertir, de convertir notre cœur. Et c'est très difficile, vous savez, il y a des personnes qui ont des blessures corporelles irrémédiables, hein, psychologiques irrémédiable. Ça, c'est la réalité du quotidien, hein. Des personnes qui vivent avec des choses tellement dures et tellement lourdes, physiquement, psychologiquement, relationnellement. Et c'est à l'intérieur de cette réalité incarnée que le Seigneur nous rejoint et qu'il nous offre sa paix et qu'il nous offre sa joie. Et si vous voulez, quand on a telle ou telle pathologie, on ne va pas être forcément guéri, hein. Par contre, on peut tous faire ce chemin de le reconnaître lui et de lui dire de tout notre cœur, viens, je ne peux rien sans toi. Viens à l'intérieur de ma vie. Viens, j'ai besoin de toi parce que mon quotidien est trop dur. Eh bien, là, il y a quelque chose qui me semble être d'une profonde conversion. Et le Seigneur nous demande d'être dans cette adhérence-là. D'abord, avoir la foi. Et ensuite, parfois, peut advenir des choses inattendues. Cette conversion-là peut nous aider à nous détendre, à être plus aimables vis-à-vis de nous-mêmes, vis-à-vis de notre prochain. Mais attention à ne pas rentrer dans une systématisation de la guérison de la blessure. Je crois que là, il y a quelque chose qui nous empêcherait peut-être, ou qui nous étanchéifierait à notre responsabilité actuelle de véritablement nous convertir. Vous savez, la conversion, c'est de rentrer dans ce cœur à cœur silencieux avec lui. Dieu, viens à mon aide. C'est le début de la prière. La prière liturgique, c'est Dieu, viens à mon aide, à la mienne, pas celle de mon voisin, à la mienne. Et si, pour peu que nous ayons reconnu que Dieu s'approche imperceptiblement, à travers parfois des voiles épais et puis de plus en plus fins, et puis parfois cet inouï de la rencontre qui vient apaiser notre cœur et qui vient nous donner une joie immense, comme celle qu'ont pu recevoir les disciples d'Emmaüs qui font ce chemin avec lui. Eh bien, le Seigneur nous rejoint à cet endroit-là et vient apaiser nos vies. Et nous sommes dans une relation amoureuse avec lui. Il est venu jusque-là me rejoindre. Je vais peut-être boiter tout autant le lendemain, mais je boiterai en sachant qu'il est avec moi. Alors, ce Dieu vient à mon aide peut devenir Seigneur, viens vite à notre secours. Et là, nous faisons une expérience ecclésiale. Le je peut devenir un nous, pour peu que nous l'ayons reconnu chacun dans notre vie.
Oui. Moi, je voulais dire, oui, justement, parce que moi, j'ai dû en sortir de ça. Vouloir rechercher le merveilleux, parce que ne serait-ce que pour évangéliser, c'est dangereux, quoi. Donc moi j'ai voulu, à travers les communautés nouvelles qui étaient dans ses débuts, donc il y avait des choses qui n'étaient pas justes, j'ai voulu être un super chrétien, parce que j'en suis sorti avec une dépression nerveuse, quoi. Parce que, voilà. Mais bon, voilà. Et puis on s'aperçoit aussi que même Jésus, il fait des guérisons, et c'est un échec, parce qu'on le prend pour un guérisseur. Et donc, il y en a qui ne le suivent pas après. Ils ont été guéris, bon, mais c'est pas important. Pour autant qu'ils sont sauvés, quoi. Ils se rendent pas dans l'évangile. Ma question, c'est plus derrière, c'est. On me propose éventuellement des gens qui sont dans des souffrances et tout ça, et qui trouvent un certain secours dans des personnes qui ne sont pas forcément chrétiennes, mais qui ont des pratiques médicales anciennes, genre. Par le corps, ou même c'est presque de la voyance, on ne sait pas. Et cette personne qui pourtant est chrétienne dit, mais il faut prendre ce qui est bon et le laisser au reste. Qu'est-ce que tu en penses?
Alors, ça nous rejoint un peu les premières fois où nous nous sommes rencontrés autour de ces questions-là. Je crois que la première des réponses, c'est que la disparition du symptôme que peut provoquer telle ou telle thérapie n'est pas le seul critère d'objectivation d'une guérison. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui peuvent guérir immédiatement, en tout cas, voilà, soigner un mal de tête, un mal de ventre, etc., comme le font finalement beaucoup de guérisseurs ou de magnétiseurs. Hein. La question est de savoir qu'est-ce que ça peut provoquer ensuite en termes d'inquiétude, d'angoisse de la personne, également en termes de dépendance par rapport à ce type de thérapie. Et ça nous ramène encore une fois à cette question de la volonté et de la liberté. C'est-à-dire que nous sommes appelés à la raison et à la foi. Hein. Donc notre foi doit être qu'en Dieu et notre raison doit s'exercer. Or, quand nous allons voir tel ou tel thérapeute, nous mettons foi dans ce thérapeute et notre raison est comme mise sous silence. Précisément, notre liberté s'exerce dans notre foi au Christ et dans notre discernement raisonnable.
La problématique de la guérison, je tâtonne en disant les choses, je n'ai pas de vérité, mais je me posais la question, le renouveau charismatique nous est venu des États-Unis et donc du contre-tisme. Et aujourd'hui, il y a eu une perte de vitesse très nette. Par contre, il y a un retour via les conventions unitaires. Et ma question, c'est, est-ce que nous, alors je pense à ça parce que, finalement, je ne pensais pas, mais ça me revient. Jean-Paul Bernadin, je lui ai posé la question à récemment, donc c'est un évangélique. Comment ça se fait que nous, on a cette chute là, c'est une parenthèse, ça vient juste comme ça. Hein. Et il disait, je pense que c'est parce qu'on n'est pas intégré le renouveau dans l'esprit, dans votre culture catholique. Et ma question, c'est un peu, est-ce que justement on n'est pas dans cette période de tamisation, là, dans cette période de recherche, en train d'essayer peut-être de trouver la manière propre aux catholiques de comprendre et de vivre cette dimension de l'Esprit Saint dans nos vies, tout en respectant la manière dont nous vivons les autres et en trouvant des terrains d'entente qui ne soient pas les plus petits dénominateurs communs. Ça, c'était l'expression d'un évêque qui a repris ça par rapport à un catholique qui allait beaucoup avec les protestants évangéliques. Est-ce qu'on n'est pas souvent dans cette intervention sur le plus petit dénominateur commun parce que nous, on n'a pas encore trouvé notre manière? Alors, ceci dit, moi, je suis assez critique hein, vis-à-vis de l'Église, des institutions notamment, personnellement. Je suis plutôt du genre à revenir à la simplicité évangélique. Je crois qu'on va forcément y revenir parce qu'il va y avoir un manque de prêtres, etc. Mais voilà, je me demande s'il n'y a pas une synthèse qui n'a pas encore été trouvée, parce que nous-mêmes, on n'est pas à notre place vraiment par rapport à notre culture qu'il faut respecter aussi, à notre héritage.
Alors, je vais vous répondre à cette question en tant que catholique. Donc, je ne peux pas me placer à la place des évangéliques, mais je vais le dire à la place des catholiques. Je suis personnellement assez ennuyé de voir un certain nombre de catholiques qui, lors de rassemblements, notamment Carlos Payan et autres, vont chercher l'imposition des mains de la part de Carlos. Pourquoi ? Parce que je crois vraiment que nous avons à redécouvrir combien le sacrement est, pour nous catholiques, le lieu même où la parole fait ce qu'elle dit. La parole fait ce qu'elle dit dans l'héritage évangélique n'a pas la même théologie sacramentelle. Et je crois que ce peut être, pour nous catholiques, en tout cas ceux qui le sont, des aiguillons à redécouvrir l'importance du sacrement. Le sacrement de l'Eucharistie, qui ne dépend pas, comme on le sait, de la sainteté du prêtre, mais il est là quand même in persona Christi, et le pain et le vin sont mystérieusement transformé dans cet inouï de la présence du corps et du sang du Christ. Je crois que si nous réfléchissons bien au sacrement, est-ce que nous avons besoin d'aller chercher ailleurs dans l'émotion? Mais vous voyez, ce sacrement est en même temps, quelque part, un Golgotha des sens. Qu'est-ce que c'est qu'une hostie blanche qui n'a aucune saveur? Vous comprenez? Et souvent, nous sommes attirés par le sensible. Mais le sensible peut être autant de miroirs aux alouettes, voyez-vous. Je crois que nous avons peut-être... Je me situe en tant que catholique, encore une fois. Je ne veux pas discréditer ceux qui mettent leur foi en la parole de Dieu. Mais je me situe à un endroit aussi où je crois au sacrement du pardon, au sacrement de réconciliation. Je crois que la parole de Dieu est agissante là où je confesse mon péché. Et je me reconnais pécheur et je lui demande de venir à cet endroit. Et je crois vraiment que là, il y a une guérison de notre âme, inouïe, mais qui dépend aussi de notre foi. Et la foi est un passage dans la nuit. Hein, c'est quelque chose qui n'est pas de l'ordre du visible, du tangible, immédiatement, exactement comme l'Eucharistie. Donc cet approfondissement des sacrements qui nous rend cette présence de Dieu étonnamment proche, mais proche dans la foi, pas proche dans l'émotionnel.
Moi, personnellement, je pense bien avec ce que disait François, parce que il me semble effectivement qu'on n'a pas intégré le renouveau dans l'esprit à la grande tradition mystique de l'Église, même indivise, mais aussi de l'Église catholique. Je pense à tout ce que peut nous transmettre Saint Jean de la Croix, Saint Thérèse d'Avila, etc. Et quand je vois que pour aussi bien les écoles de guérison de type évangélique que celles qui sont mises en place au niveau catholique actuellement, je pense à la formation de Néangoulême, on puise finalement aux mêmes sources, à savoir qui sont les évangéliques américains. Puis aux mêmes sources évangéliques américains, et puis Matinelle, une source canadienne, Kakuna, etc., pour lesquelles. Je me dis qu'on a abandonné la grande tradition mystique de l'Église. Et que, effectivement, il faudra que ce souffle du Saint-Esprit traverse aussi ces réalités qui nous ont été léguées, mais qu'on a délaissées, et qui nous manquent pour bien traverser l'histoire de la guérison, d'ailleurs, ça nous manque également, on n'utilise plus. On ne sait même plus ce que c'est. Quand on parle de la vertu, est-ce qu'on sait encore ce que c'est? Non, on n'a pas vu la question des vertus dans la conversion, en cheminant de la conversion chrétienne, elles ne sont plus enseignées, elles ne savent plus ce que c'est. Hein? Oui. On va avoir la dernière question, peut-être qu'on va arrêter.
Oui, merci. Si je comprends bien ce que vous avez dit, vous n'êtes pas contre une guérison immédiate. Si je comprends bien, c'est juste pour avoir cette précision.
Je suis bien entendu pas contre les guérisons. Moi, j'aimerais bien que tout le monde guérisse, si vous voulez. Mais attention, encore une fois, à la provocation. Au climat qui va provoquer ce que l'on veut attendre. Quelque part, on force la main à l'Esprit Saint si on veut absolument guérir de telles choses à tel moment, à tel endroit. C'est ça que je voulais dire.
Oui, je comprends et je suis aussi de cet avis. Quand j'étais en Afrique avant, il y a certains pasteurs, si je me souviens bien, Bongué, je ne sais pas si vous connaissez Bongué. Donc Bongué était un pasteur qui a sillonné tout le monde, il a voyagé beaucoup, il faisait des guérisons. Donc, j'étais à Lomé, précisément au Togo. Donc Bongué était venu pour guérir les malades sous l'effet de l'émotion, il y en a qui se sont levés. Bongué a eu beaucoup d'argent, on a cotisé tout le monde, et après son départ, et ceux qui étaient dans leur fauteuil et qui se sont levés soi-disant qui marchaient, après ils sont tombés. Bon, donc je suis d'accord sur certains points pour la guérison progressive. C'est bien suivi, on ne peut pas des fois retrouver une guérison immédiate, mais des fois aussi, il y a des guérisons qui sont immédiates, automatiques, comme dans la Bible, au temps de Jésus, qui guérissait et il disait va en paix, ta foi t'a guéri. Et en même temps, Jésus disait que tout ce qu'il a fait, les guérisons, tout ce qu'il a fait, si on a la foi, on peut le faire également. Et j'étais dans le renouveau charismatique en Afrique, et ici, quand je suis venu en France, je suis aussi dans le renouveau charismatique actuellement, et j'ai vu une très grande différence. Donc, tel que ça bougeait en Afrique, et des guérisons, bon, ici, il n'y a même pas moyen de guérir, de faire des messes de guérison, de louer Dieu, donc, il n'y a même pas ça. Donc, c'est juste pour dire que, je ne sais pas, vous n'avez pas parlé de guérison immédiate, mais je vois bien que vous n'êtes pas contre. Donc, ça peut. Et comme l'a dit, bon, moi, je dis la Bible aussi, de temps en temps, je ne connais pas grand-chose, mais je pense que, comme Jésus l'a dit, si on y croit, on peut le faire. Pas.
Alors, peut-être juste, je voudrais dire deux petites choses. D'abord, vraiment, je voudrais remercier vivement le Père Dominique qui a suscité et proposé ces rencontres-là. Vraiment, merci. Ça me permet de lui dire et de dire combien c'est important aussi d'être dans un climat d'amitié et de communion. Et puis, je voulais peut-être aussi vous proposer une guérison qu'on peut faire ensemble, c'est de nous tourner vers le Saint-Sacrement et vers Marie.